Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le président libanais est à nouveau à la recherche d'un premier ministre. Mustapha Adib s'est excusé aujourd'hui de devoir jeter l'éponge. Nommé il y a moins d'un mois, il s'était engagé à former un gouvernement d'experts capable d'enclencher les réformes attendues par la rue. La tâche s'est révélée impossible et la pression de la France n'y a rien changé. À Beyrouth, Paul Ralifé.
Tiraillé entre les exigences des partis chiites et les conseils des ténors politiques de sa communauté sunnite, Mustapha Adib a jeté l'éponge ce samedi matin. Lors d'une brève allocution, après sa deuxième rencontre avec le président Michel Aoun en moins de 24 heures, le premier ministre désigné a déploré l'impossibilité de parvenir à un consensus autour du gouvernement. Le mouvement Amal et le Hezbollah chiite sont intraitables. Ils exigent le portefeuille des finances et insistent pour nommer leurs représentants au gouvernement. Les anciens premiers ministres sunnites, avec à leur tête Saad Hariri et Fouad Siniora, poussent Mustapha Adib à ne rien céder face aux chiites. « Que Dieu protège le Liban », a dit sur un ton grave Mustapha Adib devant les journalistes. Cette impasse gouvernementale s'ajoute à la crise économique et financière sans précédent au Liban, qui traverse aussi une situation humanitaire difficile après la double explosion du 4 août. Cette catastrophe a fait 192 morts, plus de 6500 blessés et détruit une partie de la capitale. Mais cela ne semble pas suffisant pour pousser les partis politiques à s'entendre sur un gouvernement de sauvetage, comme ils se sont engagés à le faire le 1er septembre devant Emmanuel Macron. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
À Paris, l'homme suspecté d'avoir attaqué et blessé au hachoir deux employés de l'agence Première Ligne hier près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Cet homme de 18 ans d'origine apparemment pakistanaise a assumé son acte le liant à la republication des caricatures par le journal satirique. La justice antiterroriste s'est saisie de l'affaire. Deux des endroits où le jeune homme logeait ont été perquisitionnés. Cinq hommes se trouvant dans l'un d'eux et un ancien locataire ont été placés en garde à vue. Demain, la chaîne publique France 2 retransmettra en direct une messe célébrée du séminaire des Barbelés, fondé près de Chartres en 1945 sur l'intuition du père Franz Stock. Cet aumônier allemand de prison parisienne durant la Seconde Guerre mondiale souhaitait permettre aux prisonniers allemands de devenir prêtres, 600 le sont d'ailleurs devenus. Il espérait ainsi contribuer à la paix entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, 40 ans après l'attentat meurtrier de l'Oktoberfest de Munich, le chef de l'État Franz-Walter Steinmeier appelle à combattre plus résolument encore aujourd'hui les réseaux d'extrême droite. On se souvient notamment de l'attaque d'une synagogue à Halle il y a un an. En Pologne, on a cru un instant que la coalition au pouvoir allait voler en éclats, mise à mal par un remaniement ministériel mais aussi par un projet de loi qui interdisait notamment l'élevage d'animaux pour leur fourrure. Mais finalement, pas de chute du gouvernement ni d'élections anticipées. Un accord dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants a été trouvé entre le parti Droit et Justice et ses deux partenaires. Les Portugais sont appelés à choisir entre la Chine et les États-Unis. Washington s'oppose à un possible investissement chinois dans le port de Sines. Il est situé à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. C'est le port d'eau profonde le plus proche du territoire américain. Il avait d'ailleurs reçu en 2016 les premières livraisons de gaz naturel liquéfié américain vers l'Union européenne. Les Américains qui connaissent le nom de la femme qui remplacera Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, juge décédé la semaine dernière. Il s'agit d'Amy Coney Barrett, choisie par Donald Trump et dont la candidature doit être entérinée par le Sénat avant la présidentielle du 3 novembre. Le portrait de cette juge avec Xavier Sartre.
Amy Coney Barrett, 48 ans, mère de 7 enfants dont 2 ont été adoptés, est une professeure de droit, actuellement juge fédéral, siégeant à la Cour d'appel des États-Unis, poste auquel Donald Trump l'a nommée en 2017. Originaire de la Nouvelle-Orléans, étudiante à l'Université Notre-Dame dont elle est diplômée, catholique pratiquante, elle ne cache pas ses idées sur les grands thèmes de société qui agitent régulièrement le pays, comme son opposition à l'avortement. Sa possible entrée au sein de la Cour suprême, plus haute instance judiciaire américaine, qui façonne la politique et la société américaine par sa jurisprudence, provoque des sentiments contrastés. applaudi par les républicains, redouté par les démocrates qui sont particulièrement furieux de la rapidité avec laquelle le président veut procéder. L'équilibre entre juges catalogués comme conservateurs et progressistes serait en effet définitivement rompu en faveur des premiers si Amy Coney Barrett venait à les rejoindre. Et ce rapport de force pourrait durer longtemps dans la mesure où les juges sont nommés à vie. Les démocrates demandent donc d'attendre le résultat des élections sénatoriales, le choix du président devant être validé par les sénateurs à la majorité simple. Une victoire démocrate au Sénat pourrait en effet relancer le jeu. Reste à voir si Donald Trump ne présentera pas une autre candidate au dernier moment.
Élu en 2016, l'actuel président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, annonce sa candidature à la présidentielle de décembre. Un scrutin qui pourrait être reporté en raison de retards importants, notamment dans l'enregistrement des électeurs. Le pays est encore aux deux tiers sous la coupe de groupes armés, malgré des accords de paix signés sous l'égide de Sant'Egidio. Face au président Touadéra, François Bozizé, l'ancien président renversé il y a 7 ans par la CEDECA. En RDC, la situation est désormais sous contrôle à Lubumbashi, deuxième ville du pays, connue pour ses mines. Des miliciens y avaient fait une incursion. Ce matin, ils ont attaqué le siège régional de la télévision nationale RTNC. Ces assaillants ont été tués. Eux ont décapité 2 policiers et tué 1 militaire. Il risque jusqu'à 6 mois de prison, mais ni la menace d'une incarcération, ni le risque de noyade ne semblent les arrêter. Depuis le début de l'année, plus de 6 000 Algériens ont emprunté la route de la Méditerranée occidentale ou centrale pour rejoindre l'Europe. Ces derniers jours, les gardes-côtes algériens ont repêché 3 corps et intercepté 755 migrants au large de leurs côtes. Et puisque nous parlons de migration, je vous rappelle que demain, dimanche, aura lieu la 106e journée mondiale du migrant et du réfugié. Le pape François a partagé à cette occasion un message vidéo consacré aux personnes déplacées internes. Un drame qui concerne des millions de familles aujourd'hui. Plus de détails bien sûr sur notre site internet. La protection de la création et de la vie sous toutes ses formes est un des fers de lance du pontificat du pape François. En pleine année Laudato Si, 5 ans après la parution de son encyclique éponyme et alors que s'achève la saison de la création le 4 octobre prochain, nous revenons maintenant sur les liens entre les animaux et la foi chrétienne. Nous nous interrogeons avec Christophe Levallois sur la place que les chrétiens doivent accorder aux animaux à l'heure où une espèce sur 3 est menacée de disparition. L'essayiste cofondateur d'orthodoxie.com est également l'auteur du loup et son mystère chez Courrier du Livre.
Les animaux sont une partie de la création. Toute la création nous parle de Dieu et du message qu'il adresse aux êtres humains pour leur salut. Par conséquent, très rapidement, on a vu aussi dans les animaux certaines qualités ou certains défauts qui, pour les qualités, sont utiles au salut parce qu'elles représentent des vertus, tandis que pour les défauts, sont des obstacles. Il y a constamment ce dialogue qui s'opère entre l'être humain et la création. La création lui enseigne aussi les voies de Dieu.
Comment considérer justement l'homme et l'animal à, entre guillemets, leur juste place, notamment aujourd'hui, je pense à éviter d'un côté leur surexploitation, mais de l'autre, la dérive antispéciste aussi.
C'est une relation que l'on voit émerger à partir du 19e siècle. Et effectivement, il y a eu d'une part tout un courant qui considère l'animal, mais aussi malheureusement très souvent l'être humain comme un objet, mais de l'autre aussi une attention qui a toujours été présente dans l'histoire. On le voit par exemple dans les vies de saints. Cette conscience s'est aujourd'hui fortement élargie, retrouvée des choses, des relations qui existaient il y a plusieurs siècles avec les sociétés anciennes où l'on reconnaissait l'animal comme un être qui avait aussi sa destinée. Et les chrétiens, me semble-t-il, ont vraiment quelque chose à apporter en puisant dans leur tradition. Le reconnaître comme un être vivant qui a aussi droit à tous les égards dus à tous les êtres vivants. Je prendrai juste une figure, celle de François d'Assise, lors de l'épisode du loup de Goubillot qui est rapporté dans les Fioretti. Il parle de son frère loup, comme il parle aussi de son frère et de ses sœurs pour les autres parties de la création. Nous sommes au Moyen-Âge, on voit là déjà une considération très forte, une fraternité même, établie entre l'être humain et puis les autres membres de la création.
Quel rôle les chrétiens auraient à jouer aujourd'hui dans cette lutte, entre guillemets, pour la protection animale ?
Les chrétiens, dans leur tradition, accordent du soin à l'autre. Et l'animal est aussi un autre. Claude Lévi-Strauss disait que l'animal est le plus autrui des autrui. Donc il y a dans la tradition chrétienne tous les éléments pour travailler, et de manière très concrète, il y a tout un ensemble de questions qui se posent. L'élevage industriel, la question de la vivisection, de la maltraitance d'animaux aussi. Il y a dans la tradition chrétienne de quoi à la fois nous inspirer pour y répondre et pour y apporter d'heureuses réponses.
Interrogé par Delphine Allaire, Christophe Levallois, essayiste cofondateur d'orthodoxie.com, était l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à lundi matin 8h30 pour un nouveau tour du monde. D'ici là, un excellent dimanche à tous.